Quels sont les secrets de la gelée royale, produit de la ruche considéré par beaucoup comme un super aliment? Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Ludovic Fauvel, apiculteur et producteur de gelée royale. Vous avez probablement entendu parler des bienfaits de la gelée royale. Et surtout en ce moment avec le changement de saison, car c'est justement la période pendant laquelle ces bienfaits seraient les plus intéressants pour notre vitalité et notre immunité. D'ailleurs, je dois le dire, en ce moment, j'en ai bien besoin. Vous croiserez probablement beaucoup d'articles de presse vantant en ce moment les bienfaits de la gelée royale pour bien passer l'automne et se préparer à l'hiver. Alors, nous avons invité un apiculteur pour nous expliquer justement ce qu'est la gelée royale. Il nous explique les bienfaits de ce concentré de vitamines et minéraux, mais aussi et surtout comment elle est produite, pourquoi elle coûte aussi cher, comment en acheter, la conserver, comment la consommer et surtout comment s'assurer de sa bonne qualité. Car les producteurs français de gelée royale ont créé un label qui garantit la qualité du produit et son origine française aussi. Et vous allez constater que ce n'est pas un détail quant à la qualité du produit. Comme ça, vous saurez tout sur la gelée royale et vous pourrez décider si vous faites une cure ou pas cet automne. Allez, c'est parti. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Moi, je vais te dire un truc, je suis le candide. Je n'y connais rien. Enfin... j'ai mes connaissances modestes, voilà.
Ouais.
On va rentrer dans un sujet qui est, je pense, qui interroge beaucoup de gens, d'ailleurs, parce que c'est un produit qu'on voit souvent,
oui.
Mais dont on ne sait pas vraiment ce que c'est, voilà. Alors, je vais te laisser te présenter en quelques mots, nous dire exactement ce que tu fais.
Alors, je suis apiculteur, moi. Apiculteur de profession. Je constitue le GAEC Happy Lupi. Happy Lupi, A-P-I pour apiculture, L-U pour Ludovic et P-Y pour Pierrieux. Voilà. Mais bon. On a 700 ruches en production de miel.
Ouais.
Donc c'est l'activité principale de notre structure. Mais on met aussi entre 20 et 25 ruches en production de gelée royale.
D'accord.
Voilà. Et donc à ce titre-là, c'est vrai que notre atelier gelée royale. Il n'est pas modeste, mais il n'est pas non plus énorme. Ça nous génère quand même un revenu intéressant au niveau de notre structure.
Alors, c'est justement le sujet de la gelée royale, de savoir ce que c'est, comment c'est. Mais déjà, il y a un point qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a 700 ruches miel, et qu'à côté de ça, il y a des ruches gelée royale.
Ouais.
Alors, il va falloir expliquer ce que c'est la gelée royale et pourquoi il y a ce fonctionnement-là, parce que je pense que déjà, ça va surprendre énormément de gens d'avoir ce fonctionnement-là.
Ok. Alors, toutes les abeilles donc sont enclines à sécréter de la gelée royale. C'est un fonctionnement de l'espèce, quoi. Mais il y en a qui sont plus enclines que d'autres, voilà, clairement. Et donc, à partir de là, effectivement, on fait une sélection, nous. Il y a donc des critères, celui-là en est un. On sélectionne des critères comme pour toute espèce, de douceur, de productivité, de non-essaimage. Et donc là, particulièrement sur la capacité à produire une gelée royale en quantité, oui, effectivement, il y a une sélection qui est faite, quoi. Hein. On reconnaît un peu les colonies qui sont plus enclines à sécréter une gelée royale.
Parce que toutes les abeilles font de la gelée royale?
Oui. Oui. Nécessairement, il y a forcément une prédisposition à produire cet élixir. Bonhomme à l'an, bon, je vais faire un peu simple, mais pour élever les larves, les abeilles en fait sécrètent une bouillie larvaire, quelque chose d'assez commun, mais qui permet aux nymphes de se développer, enfin aux larves et aux nymphes de se développer et devenir des abeilles. Dans une situation un petit peu particulière, un petit peu de stress, qu'on appelle l'orphelinage, donc, c'est-à-dire sans sensation de phéromones dégagées par la reine, les abeilles sécrètent une bouillie larvaire enrichie, qui s'appelle gelée royale.
D'accord.
Et c'est vraiment sur cet aspect-là, comment d'orphelinage, nous, qu'on s'appuie pour faire sécréter cette gelée royale.
Elle sert à quoi la gelée royale? Parce que dans Royal, on se dit que ça a forcément trait à la reine.
Oui, la reine est nourrie à la gelée royale. Donc, en fait, donc les abeilles à l'intérieur de la ruche, en fait, passent par différentes étapes. Nettoyeuse, ventileuse, nourricière, cirière, etc. Et au moment où elles sont nourricières, nourrices, donc c'est le moment où en fait elles vont sécréter la bouillie larvaire et la gelée royale en situation un petit peu différente. Mais en tous les cas, dans le quotidien, la reine est alimentée avec la gelée royale. Elle y a droit tout le temps.
Il y a quel qui a le droit?
Non, il y a aussi un certain nombre de larves. En cas d'orphelinage ou en cas on va dire de méforme de la reine, de vieillissement de la reine, et du coup cette sensation où il faut faire perpétuer l'espèce, du coup les abeilles nourricières vont nourrir un certain nombre de larves. Alors là, on ne sait pas pourquoi elles choisissent une telle ou une telle, ça c'est complètement aléatoire, pas de notre point de vue. Et du coup, elles vont nourrir, selon ce qu'elles sont enclines à sécréter de la gelée, 20, 30, 50, 100 larves avec de la bouillie larvaire enrichie, avec de la gelée royale. Et puis, le phénomène d'élevage va s'opérer. Et donc, ces larves qui auront été nourries à la gelée royale deviennent potentiellement des reines. Sauf que la première qui naît, son premier boulot, c'est d'aller exécuter toutes les autres. Et il n'y en a qu'une à rester, quoi. Voilà.
C'est raide la vie chez les abeilles quand
C'est
même.
cruel. Bon, en même temps, c'est la nature, qu'est-ce qu'on veut? Effectivement, nous, on peut le considérer comme cruel de notre point de vue d'humain et avec une sensibilité, etc., etc. C'est le phénomène naturel qui prévaut dans une colonie, quoi.
Ouais.
Dans une colonie d'abeilles.
Mais bon, après, moi, c'est par la curiosité pure, mais la durée de vie des abeilles aussi, elle est très variable. Selon la reine, elle vit longtemps, les autres, elles bossent et puis elles meurent vite, quoi.
Carrément. Alors, elles ont des fonctions bien différentes, hein.
Ouais.
L'abeille classique, alors quand on est en pleine saison, c'est-à-dire quand il y a des moments où il y a des fortes mielées et quand en même temps il y a toute une population à régénérer et donc à nourrir, les abeilles, bon an mal an, elles font 10, 12, 15 semaines peut-être maxi. Ça, c'est vraiment en saison.
Ouais.
Les abeilles d'hiver, déjà, elles ont moins de boulot à faire, celles qui naissent en octobre, là, celles qui naissent maintenant, il y a
Ouais.
encore un peu de naissance, eh bien, elles vont durer un petit peu plus longtemps parce qu'elles ont moins d'abeilles, moins de larves à nourrir, et surtout, il n'y a pas de mielée à faire, et il n'y a pas de travail de butinage à faire. Les stocks sont à l'intérieur de la ruche. Et donc, ces abeilles-là, elles vont durer 20, 25 semaines. En fait, elles vont faire le pont entre l'automne précédent et le printemps suivant. Donc, ça, c'est pour les abeilles. Pour la reine, c'est pas du tout pareil. La reine, elle, son boulot, c'est de pondre. La reine, elle pond. Voilà, c'est comme ça. Et à ce titre-là, en fait, elle est choyée.
Ouais.
D'abord, elle a une morphologie bien différente, elle est plus grande, mais c'est parce qu'elle aura été nourrie à la gelée royale qu'elle aura cette morphologie-là. Et ensuite, elle pond, et elle est choyée, et généralement, une reine, c'est 2, 3, 4 ans, voilà, de durée de vie, quoi.
D'ailleurs, alors pour ceux qui sont intéressés, moi je l'avais vu quand j'avais visité chez Apiron, où il y a des couleurs sur les rennes hein, pour les repérer, les années, en fonction de quelles années elles sont, pour vous sachiez finalement où est la reine pour la repérer aussi. Et il faudrait
Déjà.
voir si tout va bien dans les ruches, et puis de savoir aussi de quelle année elles sont, ce qui vous donne un
Exactement.
indice aussi sur la vie des ruches.
C'est ça, ouais, c'est ça. C'est beau, c'est bon, les repères, ça.
Alors là, on a parlé de miel, on a parlé de gelée royale, ça fait partie des produits de la ruche, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de miel, mais il y a une grande famille produits de la ruche.
Oui.
Parce qu'on peut parler aussi, il y a de quoi d'autre. C'est pas moi le spécialiste d'ailleurs. Hein, je te laisse parler sur les. On
Y a
a
du
quoi comme
pollen.
produit de la ruche?
Effectivement, le miel, mais ensuite, il y a le pollen.
Ouais.
Bon, bonhomme à l'an, c'est tout ça, c'est ce qui vient de l'extérieur, avec la propolis d'ailleurs, c'est ce qui vient de l'extérieur. Donc le miel, c'est ça vient du nectar des fleurs. Le pollen, bah, elle le récolte sur l'étamine des fleurs. Et la propolis, elle le collecte sur les bourgeons, en fait. Hein. C'est un exudat de la sève et qu'elle récupère sur les bourgeons des arbres, quoi.
D'accord.
Donc ça, c'est vraiment voilà les trois grandes productions qui proviennent de l'extérieur, du butinage. Par contre, donc bah, effectivement, à l'intérieur, l'abeille à une époque de sa vie, produit de la cire. Donc ça, c'est vraiment aussi une sécrétion corporelle. Hein. C'est des écailles en fait qu'elle exude de son corps. Et sinon, bah, elle sécrète en consommant le pollen par l'intermédiaire de ses glandes hypopharyngiennes là, de la bouillie larvaire et de la gelée royale. Donc voilà. La dernière production qui est peut-être un petit peu plus, c'est le venin. Le venin aussi, c'est, bah voilà, c'est la piqûre. Elle dégage aussi au travers le venin, c'est aussi une sécrétion de l'abeille. Ouais.
Du venin, on n'en consomme pas. Enfin, je veux dire, ça s'extrait, ça
Non.
se... Non.
Ouais, si. Moi, alors j'avoue là, je suis pas carré là-dessus, mais en tous les cas, comment, y a des choses qui sont faites autour du venin d'abeille, notamment pour essayer de calmer des crises type sclérose en plaques ou choses comme ça. Mais
D'accord.
là, j'avoue, je suis pas encore, hein, je suis pas tout bim, moi. Donc,
Ouais. Non, mais...
et moi, sur mon exploitation, je l'emploie pas du tout. En fait, moi, je me fais piquer, mais c'est tout.
C'est un sujet intéressant parce que alors le très néophyte que je suis dans l'histoire va se dire, mais est-ce qu'il serait pas bien de leur laisser la gelée royale pourquoi nous on va aller chercher ça et est-ce que finalement ça pose pas problème aux ruches qu'on aille en consommer nous?
Est-ce que ça pose un problème? Non, c'est une activité réflexe. En fait, dans certaines conditions, l'abeille, voilà, sécrète de la gelée royale. On n'est pas. Alors, bah, effectivement, on met, enfin, on crée la situation pour leur faire sécréter de la gelée royale. C'est sûr, c'est vrai. On provoque la chose. Mais quelque part, c'est vraiment une activité réflexe. C'est assez mécanique. Hein.
Ouais.
Ouais, y a...
Et ça va pas leur manquer là si on quand vous leur en prenez, ça leur manque pas derrière après
Non. Non, puisque en fait, nous, on s'arrange toujours dans une ruche de production à geler
Ouais.
pour avoir un côté de la ruche où il y a une reine et donc. Ben, ça fonctionne normalement. Et c'est vrai qu'on fait ce qu'on appelle des rotations de cadre pour que dans l'autre partie de la ruche, on ait tout le temps cette sensation d'orphelinage qui leur fait sécréter de la gelée.
D'accord.
Après de dire que ça va manquer ou qu'on ponctionne quelque chose, j'ai pas le sentiment. J'ai pas le sentiment.
D'accord. Non mais c'est intéressant pour ceux qui s'inquiéteraient parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire ils produisent ça, peut-être que pour en avoir besoin, c'est comme on pourrait dire la cire. Si elles le produisent, c'est qu'à un moment donné, elles en ont besoin, surtout sur des périodes de
Ouais.
l'année où là on approche de l'hiver. Là, ça doit tout calfeutrer en ce moment les abeilles, hein. Ça doit être au boulot pour tout fermer
Alors
la ruche, hein.
c'est vrai que ouais, c'est plus la propolis là, qui vient un peu colmater un peu les brèches. Ouais. Non, 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 mais ben voilà, hein, c'est quand les conditions sont réunies, mais je comparerais ça un peu à la mielée. Les mielées, en fait, c'est des moments assez courts dans l'année. Bon, selon les floraisons, mais quand la mielée est là, il y a aucun frein, hein. Elles y vont toutes. C'est une activité bah, réflexe, hein. Elles vont pas s'économiser sur le fait de oh tiens, bon, oh, il y a de l'acacia là. Bon non non je laisse non je vais non je vais prendre, je vais plutôt prendre le châtaignier au prochain coup, quoi. Non 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 c'est donc effectivement nous on agit. Ça, je le concède bien. On met en condition pour, mais bah, en fait, ça ne, enfin, ça n'a pas, en tous les cas, clairement, ça n'impacte pas la vitalité de la colonie. Clairement, ça, non, il n'y a pas de, il n'y a pas de, y a pas de, de préjudice sur la colonie. Au contraire, enfin, nous, au contraire, hein, on en prend extrêmement soin du coup de ces colonies-là. Ouais.
Alors, j'ai un dernier mot quand même là-dessus, et après on reviendra vraiment sur la GROS spécifiquement, parce que ces différents produits, on les voit dans le commerce, et notamment, moi je sais que des fois on achetait du pollen,
Oui.
et notamment pollen surgelé, etc. Mais je crois qu'il y a des... Enfin, déjà, tous les apiculteurs, vous faites pas, toi tu produis pas de pollen?
Un petit peu aussi,
Un petit peu
ouais, mais ça reste à la marge.
En disant oui, est-ce que ça leur manque pas le pollen? Ou est-ce que finalement...
Non, mais de la même manière que la miellée, en fait, il faut bien comprendre, l'abeille a un instinct d'amassage.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un peu, enfin, quand la nature propose, eh bien l'abeille, elle dispose, hein,
D'accord.
elle va chercher, et elle va chercher, mais tant qu'il y en a, elle va chercher, elle va pas compter ses stocks.
Ouais.
Tant qu'il y a de la place dans son endroit, elle va remplir, quoi. Il y a vraiment, de ce côté-là, c'est assez, d'ailleurs, c'est assez impressionnant.
Ouais.
Au point que, bon, quand on fait une collecte de pollen, bah, effectivement, ça arrange pour ne pas poser nos trappes au moment où y a pas de production de pollen dans la nature. On sait que, bah, on s'appuie sur, alors, je ne sais même pas si on appelle ça une polynée, mais bon, enfin, un moment de production de pollen bah, sur le châtaignier, par exemple, c'est très très fort. Au printemps, bah, on peut très bien avoir sur les saules au tout début de printemps.
Ouais.
Et quoique là, justement, à cette période-là, faut y aller mollo parce que bah, on est en plein essor de la colonie. Là, la reine se remet à pondre avec le démarrage de printemps. Mais bon, certains captent un peu de pollen à cette époque-là. Enfin, voilà. Après, sur les pollens de grande culture, c'est pas la même chose. La grande culture, ça reste une ouais, pollen de colza, ou pollen de tournesol. C'est moins. Ouais, c'est moins répandu. Mais on est surtout sur des pollens vraiment des pollens de comment d'arbres,
Ouais.
de floraison sauvage, spontanée.
Ok. Et ben comme ça, tu vois, ça m'a rassuré sur cette histoire-là, parce que des fois, on lit des trucs, on dit, bah tiens, oui, mais ça leur manquait, etc. C'est bien d'en parler, parce que qu'on connaisse mieux le fonctionnement, parce que, et vu l'extérieur, c'est incroyablement, c'est presque magique. Moi, j'ai envie de dire, on voit ça, on les voit travailler, elles viennent, elles partent, etc. Bon, il y a des frelons là qui leur font la misère, mais
En ce moment, ouais.
c'est
Ouais,
incroyablement,
okay.
bien foutu quand même une ruche quand on voit comment c'est
Oui.
fait, l'organisation de tout ça, etc. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, quand on n'y connaît rien, on se dit, mais est-ce qu'on leur prend
Dès
pas
qu'on
des
y touche,
choses?
on vient perturber l'équilibre, c'est ça,
Ouais.
ouais. Ben, en fait, on fait avec l'équilibre en question, et on voit bien que, ben voilà, selon telle ou telle condition, l'abeille va réagir de telle ou telle manière, et puis bah, notre boulot s'appuie là-dessus, quoi, hein, clairement. Mais je rejoins ce que tu dis. C'est vrai que c'est miraculeux. Hein. Enfin, je reste ébahi à chaque fois que je vois une miellée s'exprimer. Enfin, voilà, quand je vois les cires se colorer, les odeurs se dégager de la ruche. Franchement, c'est chouette. Et puis, enfin. On a la chance, apiculteurs, là, nous, on a la chance de presque anticiper ces moments-là, quoi. Quand on voit une floraison émerger, bah, purée, on sait que derrière, ça va être joyeux, quoi.
Ouais.
Donc, non, ouais, c'est beau à voir. Les gens l'imaginent, mais franchement, c'est beau à voir.
Ouais. Moi, c'est un conseil que je donnerais à tous ceux qui ont l'occasion d'aller visiter, justement, de voir comment ça fonctionne avec des apiculteurs quand il y a des portes ouvertes, des choses comme ça, etc., pour voir comment ça fonctionne. Parce que c'est vraiment, on voit le travail, tout ce qu'il y a autour, et puis de comprendre comment vous faites. Et ce que je te rejoins sur un truc que tu as dit là, sur on voit ce qui va arriver et tout. Moi, quand je vais au marché, j'ai mon apiculteur qui m'avait dit un jour, il me dit, j'ai du miel d'acacia qui va arriver. Il me dit, celui-là, tu vas voir. Il va déboîter. Je dis, pourquoi et tout. Et il a sorti des petits pots de miel. Il m'a dit, il est quasiment pur. Il était beau. Tu sais, moi j'appelle son de l'or. Il a eu médaille d'argent. Il a eu cette année avec son miel. Il en a des stocks. Tu sais, il le bichonne, etc. Mais il m'a dit à l'avance. Il m'a dit, tu vas voir ce miel d'acacia et tout. La pureté de ce miel d'acacia, tu vas te régaler. Et c'est vrai quand même que il est tributaire de là où il place les ruches, etc. Il me dit, c'est pas souvent d'avoir du miel pur d'acacia. Et nous, bon, moi je suis en Auvergne, mais toi, t'es en Bretagne?
Ouais, mais je déplace mes ruches dans le Loir-et-Cher justement
Ouais.
pour profiter de cette miellet-là. Mais comme tu dis, effectivement, quelquefois c'est bingo, on trouve des choses nickel. Après, tu as des chevauchements de floraison qui font que bah ton miel est un peu métissé, voilà, il a chopé un peu de colza et du coup il a pas la même texture. Là, t'as raté un peu ton coup, quoi. Mais quand ça marche, bah ouais, effectivement, c'est jubilatoire. Hein. On a un miel magnifique, ouais, bien sûr.
Bon, moi, pour la blague, je sais pas si t'en fais, mais lui, il fait du miel du pissenlit des fois avec des mélanges où il y a du
Ah,
pissenlit.
j'en fais pas, mais bravo, ouais.
Ouais.
Bah, ça, c'est un miel, oui, c'est un miel qui. C'est assez tôt en saison. Hein. On est plutôt sur, allez, on va dire début avril. Ouais, faut vraiment avoir des colonies bien bien lancées qui réagissent sur le pissenlit. On a les odeurs. Enfin, ici en Bretagne, on a les effluves. Je le sens très bien. Quand le pissenlit rentre, je le sens très bien. Mais de là à en faire une production, non, moi je mets les housses un peu après, justement.
Ouais, bon, mais moi je l'aime pas le miel de pissenlit. C'est la blague.
Non, bah
Il me dit, il y a des gens en raffolent,
ouais.
et des gens adorent ça. Et moi, tu sais, quand c'est un
Ouais.
peu mélangé, qu'il y a du pissenlit, c'est un goût que j'aime pas trop. En tout cas, en miel et tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent celui-là. En tout cas, il a une vraie clientèle là-dessus. Bon, allez. Et lui, par contre, alors il fait pas de gelée royale, tu vois.
Alors voilà, et c'est vrai, ben revenons-en un petit peu à la gelée. C'est vrai
Voilà.
que bon, ça reste une production extrêmement chronophage sur nos exploitations. Voilà, par exemple, nous, voilà, on a 25 ruches en production de gelée royale. Ça nous mange 2 jours par semaine. Alors, pas tous les deux. Grosso modo, on va dire à peu près un peu plus d'un temps, complet sur 2 jours. On va dire un temps, un quart, on va dire. En fait, ça bloque les lundis toute la journée, les jeudis après-midi et les vendredis matin. Alors, sur d'autres exploitations, ça pourrait être décalé, mais nous, c'est comme ça. Ça veut dire que toutes les autres opérations qui ont trait à soit faire des essaims, soit aller poser des hausses, soit aller faire des visites, soit faire de la transhumance, eh ben, elles doivent se bloquer les mardis, mercredis, jeudi matin ou vendredi après-midi. Bref, en termes d'organisation, ça nous contraint clairement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui rechignent un petit peu à être contraints pour pouvoir réagir au bon moment. Voilà. On parle par exemple de l'acacia tout à l'heure. Si tu veux faire une transhumance sur l'acacia et ne pas être chevauchant sur une miellet précédente, bah voilà, faut être très attentif. Nous, bah, quelque part, on est contraint par la production de gelée. C'est un peu, c'est voilà, c'est un compromis qu'on fait. Mais a contrario, ça nous impose d'être extrêmement organisé. Là, du coup, c'est un peu le revers positif de la médaille, je dirais. On n'est pas, voilà, on s'éparpille pas, hein, c'est pif paf, quoi.
Ouais, je viens de calculer, en fait, ça veut dire que les 3% de ruches destinées à la gelée royale prennent, alors je vais pas dire la moitié de la semaine, mais un bon quart de semaine, quoi.
Non, non, pas la moitié de la semaine, parce que, enfin, considère un quart de temps sur les 2 temps pleins qu'on a sur notre exploitation. Grosso modo, ça peut, voilà, un quart, oui, non, un demi. Entre un quart, on va dire entre un quart et un demi, quoi. Temps, ouais, qui vont être consacrés à la production gelée royale. Bah ouais, c'est chronophage. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est chronophage dans le boulot? C'est le greffage. Donc, le greffage, c'est le transfert des larves qu'on fait d'une ruche pourvoyeuse de larves sur des barrettes ces barrettes qu'on va aller plonger dans la partie orpheline des ruches HB. Voilà. Donc ce greffage-là, il est assez, il prend du temps. Donc on greffe tous les lundis matins et tous les vendredis matins. Donc bah, on y passe 2 heures et demie chacun. Enfin, ça fait 5 heures à 2. Pour faire les on va dire 60, 70 ou ouais, 80 barrettes qu'on peut avoir à greffer pour une production de gelée de 3 jours là. Ouais. Donc ça nous prend beaucoup de temps. Ce qui nous prend beaucoup de temps aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'histoire de la rotation de cadres. C'est-à-dire que on fait passer des cadres fraîchement pondus de la partie où il y a la reine vers la partie orpheline. Tout ça pour faire passer les abeilles nourricières côté orphelin et donc les induire à produire la gelée royale. Donc ce travail de rotation là nous prend aussi beaucoup beaucoup de temps. Puis après bah, l'extraction, enfin voilà, encore bon lever les cadres ça va. La récolte en elle-même n'est pas ne prend pas tant de temps que ça, mais derrière l'extraction si, parce qu'il faut retirer toutes les larves. Pomper la gelée royale, tout ça dans un laboratoire où on doit avoir préparé de manière nickel l'installation, les pompes, tout l'outillage nécessaire à l'extraction de la gelée.
C'est ce qui explique le coût de la gelée royale, parce que quand on regarde le prix de la gelée royale, on dit mais c'est très très cher.
C'est cher, et en même temps, en France, on trouve une gelée pas si chère que ça. Mais bien souvent, c'est une gelée qui est importée. En fait, il faut savoir en France qu'il est consommé 175 tonnes de gelée royale. Nous, les Français, on n'en produit pas 4. On ne produit pas 4 tonnes de gelée. Donc ça montre bien, quelque part, ben voilà, déjà la difficulté des apiculteurs à s'y mettre. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est inondé complètement. Enfin, ça ne présentait plus aucun intérêt économique de produire la gelée. Aucun intérêt économique. En 95, voilà, il restait quoi, peut-être une dizaine de producteurs de gelée en France, et c'était vraiment plutôt vraiment les derniers des Mohicans. Ils se sont constitués en association et ils ont eu la volonté de se donner les moyens de relancer la production. Et du coup, l'idée, c'était de devoir comment dire, se distinguer de cette gelée d'importation qui nous arrivait à bas coût et de manière, enfin, en quantité ahurissante. Donc, comment se distinguer de cette gelée-là? Eh ben, on a choisi de tenir les colonies durant la production avec des sirops. Hors de question de donner des sirops aux colonies pour produire de la gelée. On sait très bien que voilà, on booste la production de gelée en alimentant les abeilles avec des sucres externes. Hein. Clairement, c'est clair. Donc, on s'interdit ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne congèle pas le produit. Et en s'appuyant sur ces deux aspects, eh bien, on propose un produit, voilà, un peu différent. Un peu très français, voilà, très français. Et puis quelque part, ce qu'on voulait aussi rajouter, c'était d'être tracé, d'être suivi, de faire en sorte que notre produit soit suivi. Voilà, j'ai parlé un petit peu de tous ces aspects-là. J'ai oublié de parler de l'association qui chapeaute tout ça. L'association en question, c'est le GPGR, le Groupement de Producteurs de Gelée Royale. Voilà, qui s'est constitué en 95 et qui a mis sur le marché une marque, c'est la Gelée Royale Française, GRF. Voilà. Et donc, effectivement, nous, au niveau du GAEC Apilipi, on travaille dans ce cadre-là. C'est ce qui fait que c'est plus cher.
Ouais, c'est plus cher.
Voilà.
C'est plus cher. Mais tu sais, enfin, j'allais dire une bêtise, mais parce que moi, j'étais dans ma tête, tu sais. Je me demande s'ils sont pas, en Auvergne à l'origine, le GPR.
Alors, Rhône-Alpes.
Ouais, Rhône-Alpes, hein. Parce que moi, j'avais dans mon entourage des gens et tout, et j'avais vu ce développement, justement, de la filière gelée royale qui se développait et tout, et notamment à Volvic. Et j'en fais un petit coucou parce que je sais et j'en vois plein. Et la marque Gelée Royale française, etc., on les voit passer et autres. C'est vrai qu'il y a un vrai travail dessus de communication sur la qualité, sur le. Les gens se rendent pas compte en fait. Et moi, je me suis fait avoir, même des fois. J'ai acheté des miels des fois en magasin où il y avait un petit drapeau français dessus. Si on regarde pas dessus précisément, déjà, on voit pas les origines, etc. On se fait entre les UE, hors UE, les mélanges, etc. Et je parle même pas de la Chine. Oui. Mais tous ces mélanges-là, déjà, on les voit pas. Les gens se rendent même pas compte, en fait, de la différence de qualité. Tu vois, tu viens de parler de sirop. Il y a des miels où c'est même pas du miel, où c'est de l'eau avec du sucre. Ces différences-là, on s'en rend même pas compte, en fait, vu de l'extérieur.
Non, mais clairement, oui. Puis voilà, enfin bon, une autre différence notoire, c'est que bah, du coup, avec les sirops, là, bah, tu fais produire tes abeilles sur 8-9 mois dans l'année. Nous, c'est restreint, hein, on commence fin avril, certains commencent mi-avril, mais on va dire, voilà, avril, mi-avril, et puis on n'ira jamais au-delà de la mi-août, fin août, quoi. Hein. C'est vraiment assez raccourci quand même, hein, comme période. On est vraiment sur les moments où les floraisons sont les plus belles, quoi, les plus nombreuses, les plus marquantes, quoi. Hein. Voilà, ça aussi, on fait avec les contraintes naturelles un petit peu, quoi. Hein, mais c'est ça qui fait que le produit du coup est cher. C'est ça, c'est que. En acceptant de faire avec ces contraintes-là, ben, du coup, on ne va pas en faire en quantité démentielle. Et puis voilà quoi. Alors derrière, c'est aussi comment être délicat avec le produit, ne pas le brusquer, ouais. Ne pas le brutaliser en le congelant. Mmh. Voilà, ça aussi, c'est une autre manière de nous distinguer et puis de reconnaître ben, le fait que. Qu'on fait un travail technique, pointu. Bah voilà, il est rare et donc il est cher.
Alors personne qui va acheter de la gelée. Après on ira sur les bienfaits, comment on peut la consommer. Mais si on veut acheter la gelée royale, le format dans lequel on l'achète, c'est quoi le format dans lequel il faut l'acheter en fait?
Nous, on le propose en petit flacon de 10 grammes. Ouais. 10 grammes, ça permet de faire une cure de, on va dire, entre 10 et 15-18 jours. En fait, il est conseillé de le prendre sous forme de cure, c'est-à-dire de manière continue sur une quinzaine de jours. À raison de entre 0,5 et 1 gramme par jour. Et donc, c'est plutôt alors, de le prendre le matin parce que c'est un produit quand même stimulant. Et donc, si tu le prends le soir, tu peux te poser des questions sur le fait de bien dormir après. Donc, c'est plutôt à jeun le matin, d'ailleurs. Voilà, on laisse fondre le produit sous la langue. Clairement, c'est pas bon. C'est pas la vertu première qu'on cherche. Pour ce produit-là. C'est très supportable, hein, pas non plus. Voilà, pendant 10-12 jours, tu fais cette cure-là. Certains en ont besoin davantage et donc vont prendre 2 fois 10 grammes, voire 3 fois 10 grammes. Mais ça, c'est à la perception de chacun. Pour l'avoir essayé, moi, le 3 fois 10 grammes, c'est trop. Je suis un peu pile électrique au bout de 6 semaines, là, je deviens un peu trop tonique, trop azimuté. Et non. Pour moi, par exemple, moi, 30 jours, ça me va très bien. Ouais, 25-30 jours, ça me va parfaitement.
Donc, c'est des petits flacons.
Ouais, 10 grammes. Ouais, flacons. On appelle ça des piluliers. J'en ai pas sous la main, mais ouais.
Les autres formes, si on en trouve sous d'autres formes, si on marque gelée royale sur des trucs en paillettes, des choses comme ça.
Alors, dès qu'on trouve des choses transformées ou alors mélangées, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, l'assimilation, on a sans doute une dose dans le corps, mais c'est pas, c'est pas la même. Alors, encore pire quand c'est effectivement transformé en lyophilisé ou sous forme d'ampoule ou après, bon, il y a toutes les petites mixtures ou les petites potions où tu mets du ginseng avec de la gelée ou je sais pas quoi, et puis oui. Bah, enfin, moi, c'est pas mon rayon. Je suis pas pharmacien, je suis pas et bon, je porte pas tant de crédit que ça à ces produits-là.
Donc, ce qui veut dire que si on veut acheter de la gelée royale, donc déjà il faudrait qu'elle soit vendue dans un
Oui,
rayon frais.
bah, il faut qu'elle soit maintenue au frigo. Ouais.
Faut la conserver au frais, faut pas la congeler. Et puis bien vérifier la marque française, quoi.
Bah oui, ouais, là pour le coup, bah, quelque part ça garantit tous les aspects dont j'ai parlé tout à l'heure, jusqu'à la traçabilité. C'est-à-dire que dans le cadre de notre charte de qualité, nous, GRF, vous pouvez retrouver grâce au numéro qu'il y a sur le pilulier l'apiculteur qui a produit la gelée, quoi. Ouais. Clairement, ouais. Là, il y a aussi cet atout-là qu'on met en avant, clairement, et voilà, qui produit, qui de toute façon a des vertus quand même bien connues, quoi, hein, bien reconnues.
Et tant qu'on est dans les critères de choix, il y a un label bio sur le gelée royale, sur les choses.
Oui, oui. Oui, alors, bah pour le coup, moi, je suis pas en bio, mais effectivement, comme pour la production apicole en général, il y a aussi un cahier des charges qui borde en fait une pratique, une conduite de ruche en bio. Bon, voilà. Enfin, après, ce sont des choix, hein. Dans ma pratique à moi, il y a des choses dans la conduite bio que j'intègre, clairement, parce que je trouve ça pertinent. Mais il y a d'autres aspects, notamment sur des aspects très sanitaires, puisqu'on est quand même bien emmerdé avec un parasite là qui s'appelle le varroa. On est quand même bien embêté avec ça, et je trouve que l'approche bio par rapport à la gestion de la pression de ce parasite, pour moi, elle est très intrusive, elle est très chronophage, encore une fois. Elle impose à la reine des stops de ponte, moi, qui ne me paraissent pas aller dans le sens d'un truc naturel. On contraint la reine pendant 3 semaines à ne pas pondre. C'est quelque chose auquel je n'adhère pas. Donc, c'est une manière hein, que les bio emploient pour gérer le varroa. Il y a d'autres manières où bref, enfin, il y a des choses sur lesquelles, voilà, moi, j'y suis pas.
Ok, donc c'est intéressant de voir la production, tu vois, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on en parle, parce que on se rend pas compte de tout ce travail, etc. Et puis les gens peuvent voir le tarif en se disant, mais c'est hors de prix et autres. Mais il y a une explication, c'est important de dire l'explication. Bon, maintenant, les bienfaits de la gelée royale, on en consomme dans quel cadre? Qu'est-ce qu'elle nous apporte?
Alors, la gelée royale, c'est un aliment en fait qui va nous rebooster, voilà. Et donc clairement, il est souvent conseillé au moment des changements de saison, notamment passage automne-hiver là, ou enfin, fin d'été automne, les jours qui raccourcissent très fort. Là en ce moment, par exemple, ouais, beaucoup de gens se font une cure de gelée là en ce moment là. Et l'autre moment qui est plutôt aussi favorable, c'est justement au printemps, au redémarrage, quoi. Histoire de se redonner un peu de l'énergie, faire en sorte qu'on soit bien en phase avec la montée en sève, la nature qui s'éveille, etc. Donc ça, c'est des emplois, ouais, c'est sous forme de cure. C'est quand même essentiellement de cette manière-là qu'elle est consommée. Moi, certains peuvent prendre des shoots de gelée, voilà. Hein, se prendre 3-4 grammes d'un coup, franchement, ça azimute parfois un peu trop, quoi. Ça nous donne une pêche, mais peut-être qu'il y a des moments où il y a besoin, hein, mais enfin, moi, je ne fais pas. Hein. Je ne fais pas ce genre de truc. Mais voilà, ça peut être aussi. Mais au risque peut-être d'avoir un palpitant qui va vraiment nous énergiser, quoi. Hein, donc,
Non, parce que c'est incroyable de se dire quand même, attends, tu dis 3-4 grammes comme ça fait ça a autant d'impact, parce qu'on se dit on est quand même des grosses bêtes comparé. Hein.
Ah ouais, ça peut avoir un impact assez fort. Faut faire, enfin, c'est comme tout produit qu'on prend un peu en excès, enfin, sans trop, enfin, de but en blanc comme ça, quoi. Hein, ouais, ça peut avoir des effets assez forts. Pour d'autres, peut-être ça l'aura moins, mais faut se méfier quand même, quoi. Hein, c'est,
Donc tu l'as dit, plutôt à jeun, le matin, sous la
le
langue.
matin, sous la langue, ouais, voilà, c'est ça. Puis on laisse fondre, puis on attend 4-5 minutes là, avant de prendre son café ou voilà, ouais.
Donc on l'a dit, donc ça se conserve frais, ça se chauffe surtout pas, hein,
Non, hors de question. Non, 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 ça se prend pur, voilà. En fait, tel que nous, on le pompe des cupules quand on sort nos cadres de la ruche à geler, bah, tel que ça, il faut le consommer, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est le produit identique à ce qui est dans la ruche.
On va le dire aussi tant qu'on y est, parce que les gens ne le sachent pas, mais enfin, il y en a plein qui l'oublient. Mais le miel, non plus, il ne faudrait pas le chauffer, faut pas le monter trop en température. On ne le met pas dans sa tisane qui est bouillante. Hein.
Ça va sucrer, ça va quand même sucrer, mais ça va clairement, oui, enfin, il y a des choses qui se passent quand on chauffe le miel très fort, quoi. Ouais, ça perd de ses qualités organoleptiques.
On sait pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. Enfin, là encore, ça fait partie de la magie. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la gelée royale qui fait que ça a autant d'effets, en fait?
En fait, il y a de la vitamine, surtout la famille B. Famille B1, comment, des vitamines. Alors, là, j'ai mon petit papier sous les yeux, mais donc des vitamines B1, la thiamine, B2, la riboflavine, la B3, niacine, la B5, apparemment qui est assez, je cherche, acide pantothénique, la B6, B8, biotine, et surtout la B9 aussi. B5 et B9 sont vraiment des vitamines assez recherchées. Donc la B9, c'est l'acide folique. Et ensuite, il y a un acide gras exclusif qu'on ne retrouve que dans la gelée royale. Ça s'appelle
D'accord.
le 10-HDA, l'acide 10-hydroxy-2-décénoïque. Ça n'existe que dans la gelée royale. Et justement, c'est là où, effectivement, nous, en faisant l'analyse de nos gelées, on a vu une différence entre la gelée d'import et la gelée telle qu'on la produit nous en France, c'est que le niveau de 10-HDA dans la GRF est sensiblement supérieur à celui qu'on trouve dans une gelée fonctionner de manière un peu intuitive quand on a décidé de ne pas nourrir nos colonies avec des sucres pendant la production. On s'est dit, voilà, c'est une manière de se distinguer, on va mettre ça en avant, quoi. Ben, en fait, ça a été comment dire vraiment une vue prémonitoire, quoi. Effectivement, quand on ne donne pas de sucre, eh bien, on trouve une gelée un peu différente, et notamment au niveau de la production de cet acide gras.
Faut le dire, hein, toute la liste des vitamines dont tu as parlé, ça a un intérêt sur l'immunité, sur antidouleur aussi, hein, certains, hein, en font partie.
Possible, ouais.
Bon, antioxydants, et tu viens bien d'en parler, etc. Mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses propriétés qu'on prête, hein, là encore. Alors, après, c'est vrai que moi, je sais pas si dans le groupement, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été faites. Je sais pas s'il y a des études scientifiques qui ont été faites pour essayer de montrer les impacts, etc., de dire, bah voilà, on a quand même c'est pas juste des croyances ou des dires, c'est on fait vraiment des analyses dessus et vraiment des recherches pour voir ce que ça apporte.
On essaye. On reste quand même, ben là encore, hein, ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, on est apiculteur avant tout, mais effectivement, on essaye de trouver des partenaires scientifiques pour nous aider à démontrer l'intérêt de la gelée dans une prise quotidienne pendant une période donnée. Voilà. Bon, je t'avoue, hein, je suis pas comment, tout auprès des résultats qui peuvent ressortir, mais dans le cadre de cette association là, le GPGR, on a une commission recherche, voilà, qui œuvre à essayer de comprendre un petit peu tout ça. Il y a l'aspect qualitatif, c'est-à-dire la qualité du produit, comment on l'emmène jusqu'au client. Donc ça, c'est important. Il faut aussi qu'on soit sûr de nous au niveau des recherches par rapport à ça. Mais il y a aussi eh bien, effectivement ce que ça produit. Mais là, on touche un domaine un peu délicat, hein. On est à une frontière où on voit bien que de l'autre côté de la frontière, ils n'aiment pas qu'on vienne. Hein. Clairement. Clairement, clairement. Bon, mais ça se comprend aussi. Hein. C'est le domaine de la recherche, du médical, enfin, voilà, hein, de ce que produisent les aliments sur le corps. Ben, eux, c'est leur dada, hein, c'est leur truc. Hein, donc voilà.
Non, mais c'est vrai que faut le préciser parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Il y a ceux qui travaillent avec les plantes aussi. On sait ces questions-là, cette frontière qui devient limite. Alors, sachant que d'ailleurs sur les plantes, il n'y a que les pharmaciens normalement qui ont le droit de vendre certains mélanges de plantes, etc. Là, tu l'as dit. Bon, vous avez un organisme, des représentants, il y a des marques qui ont été mises en place, etc. Parce que j'ai envie de te dire. Enfin, presque n'importe quel margoulin pourrait importer de la gelée royale de Chine ou je sais pas d'où et dire que c'est de la gelée royale, non? Enfin.
Mais malheureusement, oui, c'est vrai que c'est enfin, ça attire des convoitises de cet ordre-là, hein, c'est clair. Mais bon, comme beaucoup d'autres produits, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si, ça sert à rien. De tirer à boulets rouges sur ce genre de pratiques, elles existent. De toute façon, elles existent malheureusement. Donc, à l'inverse, on s'appuie plutôt sur ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut montrer qu'on sait faire, voilà. Et tous les outils qui vont dans le côté positif de la connaissance à donner aux consommateurs. Tu vois, franchement, on est dans cet esprit-là. On a essayé hein, dans l'autre sens, hein, tu sais, de faire des commentaires sur tel ou tel. Hein, enfin, mais non, mais ça, en fait, En fait, on ne produit pas du bon feeling hein, en faisant de cette manière-là. Donc, voilà, le parti est pris maintenant de travailler sur le produit, de montrer la manière dont on se borde pour le produire. Voilà, générer de la confiance. Voilà, c'est ça, c'est générer de la confiance.
Et je rigole parce que des fois, tu sais, je cherchais gelée royale et souvent on en voit dans les produits, genre des shampoings, des choses comme ça. Et quand tu nous dis le truc, bon, tout ça, on est dans un, on n'est pas dans le même domaine, hein. On est plus dans le même domaine.
Mais non, mais absolument pas. Mais là encore, c'est vraiment l'image qui est vendue. C'est complètement ça. De la gelée royale dans du shampoing. Enfin, c'est vrai que dans la cosmétique, la gelée royale. Bon, mais ouais, non, là vraiment. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'image. Voilà, on s'appuie. L'image du produit est porteuse, est belle, et puis bah du coup voilà. Tout est bon pour s'attirer le consommateur, quoi. Hein.
Attends, tu vois, ça me pose une autre question, l'histoire de la conservation. Tu en vends en distance de la gelée royale?
Oui, alors par le biais d'un site e-commerce, ouais. Mais c'est comme si je cédais à une boutique en fait qui vendrait avec pignon sur rue. Bah là, je cède au site internet et donc effectivement, lui. Renvoie la gelée à droite et à gauche, ouais, partout en France.
Donc, ce qui veut dire, par contre, il doit la livrer avec des soufrés, j'ai envie de dire,
Alors, nous, on emploie des petits boîtiers en liège qui permettent quand même le maintien relatif, mais qui maintiennent au frais, quoi. Et donc, il faut absolument que, oui, ces envois, ils les gèrent ben, en frais ou ben, de manière carrée. Ouais.
Voilà donc pourquoi quand on voit de la gelée royale à plein d'endroits, on la voit sous les petits trucs en liège. Parce qu'on les voit ces boîtes en liège, même quand on les voit dans les frigos, etc., hein, en magasin, on les voit. Hein, c'est pas juste un habillage pour la beauté, pour dire que c'est naturel, c'est vraiment important.
Non, ça sert. C'est un outil promotionnel. On va pas non plus se cacher. Mais Bon, ben, ça permet au client, quand il le chope au magasin, ben, de le ramener chez lui de manière relativement protégée, quoi, hein. Voilà.
Donc tu l'as dit, la production de gelée royale, c'est quand même sur une période qui est assez courte dans l'année.
Ouais, en France,
Ah.
oui. Voilà.
Donc ça veut dire que est-ce qu'il pourrait y avoir des périodes où il y en a, où il n'y a pas de stock, où on n'en trouve plus du tout, enfin.
Alors, bah, généralement, une des logiques qu'on essaye de faire vivre aux collègues qui sont dans l'association GPGR, là, c'est de ne produire que ce qu'on est capable de vendre. Voilà. Et quelquefois, on vend très bien. Et puis, ben, on n'a pas forcément produit assez. Donc, on peut avoir des trous. Ça peut arriver. Ça peut être l'inverse aussi, hein. On peut trop produire et ne pas bien vendre. Donc, là, ben, tu te retrouves avec un produit au bout de 10, 12, 15 mois, là, bah oui. Bah, du coup, tu peux plus. Enfin, ça devient limite d'utiliser la GRF. Et de toute façon, au-delà de 12 mois après la mise en pot, tu peux plus. La production de gelée royale, elle est relativement régulière, relativement régulière, beaucoup moins aléatoire que la production de miel. Voilà.
Ouais.
Il y a quand même de ce côté-là quelque chose d'un peu plus régulier. Si tu veux, tu vois, nous, au niveau d'exploitation, on tourne maintenant. De manière récurrente, entre 15, 20 kilos de production. L'année dernière, on a fait 19. L'année d'avant, on avait fait que 16. Voilà, tu vois. Bon, bah, c'est à peu près le volume qu'on est capable de vendre. Donc. Et si quand on avait fait 16 kilos, là, bah, on avait été court, j'avais plus de gelée à proposer à partir du mois de février. Voilà. Bon, bah, il faut attendre le mois de mai pour. Donc on avait un petit trou de 3 mois, ben ça arrive, c'est comme ça. Cette année, normalement, ça devrait nous permettre de faire le tour de l'année.
Mais tu l'as dit, faut pas la cons ça se conserve pas indéfiniment hein, pour les qualités. Donc c'est un an après la mise
Non.
en pot, après on considère qu'elle est plus.
Ouais, alors c'est-à-dire que nous, on a la règle qu'on a établie au niveau du groupement, c'est jamais au-delà de 18 mois après la production. Donc, admettons qu'on ait une gelée, voilà, qu'on produit, allez, début juillet, eh bien, tu pourras pas la vendre à l'année, enfin, comment, tu la vendras que jusqu'au éventuellement 31 décembre de l'année suivante, pour peu que tu l'aies mise en pot au 31 décembre de l'année en question, quoi. Parce que si tu l'as mise en pot en septembre, eh bien, tu raccourcis cette date de 18 mois. Tu la raccourcis à 15 mois. Enfin, bref, tu vois, de ce côté-là, nous, on essaye de bah, voilà, on a cette règle-là, point à la ligne. Hein, donc voilà, ouais.
Non, mais c'est important aussi de le dire parce que pour dire que voilà, il peut y avoir des dates à regarder sur les pots, si des fois on en voit en promotion dans les magasins, etc. Bah, on peut se poser la question. De toute façon, la date elle est marquée, la date de mise en pot.
Elle est marquée, ouais, sur les boîtiers ou sur le pilulier, ouais.
Donc voilà, d'avoir ce réflexe-là, de dire de regarder les origines, de regarder la fameuse les fameux labels, hein, c'est un truc
Ouais.
important, de regarder les dates de mise en pot, tous ces éléments-là qui garantissent hein, que c'est de la qualité. Et puis si elle traîne sur une étagère qui n'est pas au frais,
Ben c'est pas bon.
c'est pas bon.
Ben non. On peut avoir les boîtiers Liège sur l'étagère. Enfin, moi, je fonctionne pas mal de magasins comme ça. C'est-à-dire que en termes de présentation, c'est très bien, hein, d'avoir le boîtier Liège. Tu passes en caisse et là, le caissier, ben, il va aller au frigo chercher le pilulier et te le mettre dans ton boîtier, quoi.
Donc ça, c'est un élément qui est important. Hein. C'est vrai qu'il faut signaler. Donc les formes congelées, on oublie. Les paillettes, on oublie. Il y aurait quoi
Ouais.
d'autre comme forme qu'on pourrait trouver dans le commerce et que finalement, on se dit... Bon, les ampoules, t'en as parlé tout à l'heure. Dire ça aussi, c'est pas terrible.
Bah, j'en sais rien, si, je sais pas. Tu demanderas à quelqu'un qui fait des ampoules et tout, il va te vendre le produit. Moi, je te parle du produit bah, tel que je le produis moi. Voilà. Peut-être hein, qu'il y a des interactions entre telle et telle matière active qui font que ça produit des effets encore plus sympas. J'en sais rien, moi, mais voilà. Par rapport à la matière première, Je vois pas ce qu'il y a de, je vois pas ce qu'il y a de mieux, quoi.
Non mais c'est bien parce qu'on a fait des épisodes sur l'ultra transformation, sur le produit brut, sur l'importance du
Ouais.
produit brut. C'est vrai que là aussi, on en revient toujours à cette logique-là de dire, bah, si on a la gelée royale brute, produite directement comme ça, qu'on sait comment elle est conservée, qu'elle a été offrée, qu'elle est conservée, qu'elle a ses dates, etc. Bah, on sait de cette manière-là qu'on a vraiment de la vraie gelée royale, je veux dire, et pas quelque chose de transformé, des dilutions dont on ne connaît pas les composants,
Clairement.
les trucs, parce que c'est pas une marque gelée royale. Pour ça, j'ai l'exemple du shampoing quand même. En disant, y a des dilutions, il y a des trucs, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Si on revient à la logique brute, naturelle, etc., la forme telle que vous la produisez, vous, hein, les apiculteurs, sans transformation, etc., c'est celle qui est la plus proche de ce que l'abeille produit elle-même.
Carrément, non, non, mais c'est ce que produit l'abeille elle-même, clairement. Ouais. Ah ouais, non, il n'y a aucune. Non, non, il n'y a aucune. Ouais, c'est. Clairement, voilà, on est dans la ruche. Hein. On sort d'un produit de la ruche tel que.
Eh ben écoute, c'était très intéressant, tu vois, d'avoir cette. Moi, alors j'y connaissais rien du tout, là, j'ai royal, mais maintenant j'ai toutes les explications sur le, sur énormément de, sur énormément d'éléments qui permettent de regarder différemment la ruche, hein, parce que c'est vrai qu'on voit, bon, le miel, c'est tellement connu, il y a tellement de tonnes, etc. Et encore que, bon, quand on voit qu'on sait consommer des fois, on se demande si c'est vraiment du miel, hein, ça fait partie des gros débats des grandes discussions. Qui vous agite beaucoup hein, dans le monde de l'apiculture parce que c'est un problème. Et j'ai vu qu'il y a eu des condamnations il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai vu hein, dans cette histoire-là.
D'accord, mais tant mieux, parce que il s'agit aussi de mettre le doigt sur, voilà, sur les fraudeurs, carrément, parce qu'on parle de la fraude, de la fraude, de la fraude, mais il y a des, y a des filières derrière, hein, donc non, faut, c'est terrible parce que ça décrédibilise aussi, enfin, du coup, ça peut aussi mettre le doute sur sur certains collègues ou sur et ça, ouais. Tant mieux qu'il y ait, qu'il y ait des filières qui sont un peu pointées du doigt comme étant malfaisantes.
Ouais, bon, si les gens cherchent faux miel sur Google, ils trouveront le truc. Du faux miel du Roussillon qui venait de Chine. Condamnation en juillet, tu vois, comme quoi. Et pour ça, j'ai vu passer des articles et on en voit régulièrement. Ce qui montre aussi hein, qu'il y a un travail qui est important. Et puis, vous n'avez pas la tâche facile parce que tout à l'heure, je parlais du frelon asiatique et compagnie, là. Tu parlais, toi, des nuisibles aussi qui peuvent arriver et autres. C'est vrai que, j'en parlais avec mon apiculteur. Qui me disait, mais il s'est battu encore toute l'année avec ça. Et il en avait même devant son stand, qui venait avec lui et tout, et alors qu'il vendait, etc. Et bon, il n'avait plus d'abeilles. Il me disait, regardez, il y en a 3, 4 qui se baladent encore ici et tout. Il me disait, il y en a partout, partout, quoi. Et c'est vraiment pour vous. Et peut-être dire un mot, parce que peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte d'ailleurs, de quel est leur impact pour vous sur les ruches.
C'est donc clairement c'est une tuile supplémentaire qui nous tombe dessus. En saison, à la limite, ça n'impacte pas des masses. C'est maintenant que ça s'opère, quoi. Là, depuis mi-septembre, et certains même avant, j'ai des collègues en Dordogne là, qui râlent depuis, enfin qui constatent depuis la mi-juillet déjà la présence des frelons, mais bon, bonhomme à l'an, on va dire mi-septembre. On a donc une présence du frelon qui vient complètement interdire l'activité, profiter des floraisons automnales. Hein, le lierre, tous les couverts végétaux, tout ça, elle doit pouvoir en profiter pour se refaire aussi ses stocks pour passer l'hiver tranquillou, quoi. Ben là, le frelon vient carrément perturber ce moment important de la vie de la colonie. Et en ça perturbe aussi, nous, notre manière de travailler auprès des colonies. Hein. Clairement, moi, donc avec Pierre-Yves, on a ciblé dans le bassin rennais, enfin quasiment tout le bassin rennais, une présence, une pression frelon trop importante. Et du coup, on enlève nos ruches et on les ramène plutôt sur le secteur de Vitré, là, secteur 1 en 4. Voilà, c'est un peu la manière de diluer la pression du frelon. En ayant 40, 50 ruches dans un même endroit, eh bien les frelons sont un peu éparpillés sur tout le monde, au lieu d'être focalisés sur 5 ou 10 ruches, où là, c'est la cata. Hein. Donc pour les collègues amateurs, c'est très dur. Hein. Mais voilà, voilà les moyens qu'on prend pour essayer de contourner un peu ce problème, mais qui est un problème supplémentaire. Ouais.
Attendent devant la ruche, à l'entrée de la ruche, ils attendent là comme ça pour que les abeilles qui rentrent, qui sortent pour les choper au passage. On s'en rend pas compte, hein, c'est vrai, parce qu'on en parle beaucoup des nuisances, mais peut-être que les gens se rendent pas compte en fait de la nuisance réelle que c'est pour vous, alors qu'elle est vraiment réelle et qu'elle pose vraiment des problèmes et que le traiter, c'est pas si facile que ça en plus,
Bah,
hein.
pour l'instant, on n'a pas de choses très non extrêmement efficaces, hein, clairement. Il y a plein de choses qui s'expérimentent. De toute façon, le frelon, il est là depuis 10 ans, quoi, pas beaucoup plus, hein. Donc, on n'a pas encore beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ça. Voilà. Donc, on fait face comme on peut. Après, quand l'hiver se passe, eh ben, la chose se calme, clairement. Et ben, on repart avec un choc à plat. Moment où un certain nombre de ruches ont passé ce cap-là, elles sont pas gênées, enfin, le cheptel n'est pas gêné sur la très grande première partie de saison, enfin, même les 2 tiers de la saison, c'est pas gênant, hein, ça nous embête pas. C'est vraiment sur la fin de saison que ça nous impacte. Et ça peut impacter fort, effectivement, certains collègues, clairement. Je lui dis, enfin, là, en Dordogne, c'était la panique totale cette année.
On espère que de toute façon il y aura des solutions qui sont trouvées là-dessus. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps parce que c'est vraiment intéressant de creuser parce que c'est vrai qu'on voit plein de produits comme ça et tout. Et puis on dit que ça fait partie des élixirs de la nature, la gelée royale. Que c'est d'ailleurs, enfin j'ai encore une dernière question, mais tu sais comment on a découvert que c'était à ce point bon pour
Alors là, non, j'ai pas des choses précises. Ça a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale et peut-être surtout après, ouais, où il a commencé à être question de l'intérêt de prendre de la gelée royale. Mais j'ai pas suffisamment de connaissances à ce niveau-là pour t'en apporter davantage. Non, non, désolé.
Non, mais je chercherai. Mais en tout cas, c'est bien parce que c'est vrai qu'on se demande toujours comment les hommes et les humains sont allés chercher certains produits. On peut se poser la question de savoir à quel point ça pouvait être bon ou pas et tout. Et c'est vrai qu'on dit que c'est un élixir de la nature, hein, vraiment, qui est produit par et puis la magie du miel et des produits.
Déjà, rien qu'à observer ce qui se passe dans la ruche et la différence de vitalité, enfin, quand on voit comment une reine émerge au bout de 16 jours en n'ayant que ça à consommer, alors que pour une abeille qui est plus petite, elle va émerger au bout de 21 jours. Enfin, j'ai rien qu'à ce niveau-là, tu as quelque chose d'un peu
Ouais.
questionnant, quoi. Donc, bon, c'est sûrement des choses comme ça qui ont dû interroger un peu les gens qui étaient un peu curieux là-bas.
Qui se sont dit, il y a un truc à regarder. Et en tout cas, c'est
Ah ouais.
intéressant. Je te remercie beaucoup, Ludovic. Alors, si les gens veulent. T'as un site internet, un compte Instagram ou quelque chose comme ça ou...
Non, je suis pas très réseau social, moi. Je bah, Happy Run, en tous les cas, me distribue au niveau de gelée, ça c'est clair. Le site avec lequel je travaille, c'est Miel in France. Mais pour le coup, moi, je suis non, je suis. En fait, bon, je suis un apiculteur local. Je suis reconnu localement. J'ai une clientèle qui a un regard sur mon travail qui est gratifiant, vraiment. Je suis reconnu. Et puis, ben voilà, moi, quelque part, ça me suffit. J'ai pas besoin de chercher une notoriété autre, quoi. Non, non. Donc voilà, sur mon secteur de Vitré, Rennes, là. Ça me suffit.
Et ceux qui seraient à Rennes, Vitré et tout, là, ils peuvent venir te voir. Enfin, t'as un magasin,
On a notre bâtiment, voilà, dans lequel on produit, l'endroit où on produit la gelée royale, mais aussi le bâtiment où on fait l'extraction de miel. Alors, il n'y a pas de boutique à proprement parler. On fait des portes ouvertes assez régulièrement, à peu près une fois par an, soit à destination des apiculteurs de loisirs, soit à destination du grand public. Donc voilà, on le fait savoir dans les magasins dans lesquels on dépose nos produits, les magasins Bras-d'Herbes sur Vezin et Champy du côté de Rennes là, pas mal d'épiceries fines sur Châteaubourg, le Temps des Cerises, l'Instant Fermier, Château Giron, on a aussi Puy du Castel. Enfin bref, il y a pas mal d'endroits où voilà, on fait connaître un petit peu les manifestations dans lesquelles enfin, sur lesquels là où on se propose.
Voilà, et bien comme ça, ceux qui sont dans le coin, qui sont autour de la
Ouais.
région, autour de là, comme ça, pour venir voir. Et puis profiter de ton expertise, ta connaissance et du travail que tu fais. En tout cas, Ludovic, je te remercie beaucoup parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que ce produit-là, je le voyais traîner, je voyais passer, et puis quelques trucs qui m'interpellaient. Je te dis, c'est une sorte de shampoing, mais il y a plein de produits qui sont marqués Gelée Royale et tout. Ça m'a toujours
Ben
assez fait à sourire. Et puis, qui explique aussi hein, ces histoires de prix, hein, pourquoi ça.
ouais,
Quel est le
bah
prix d'où il vient et tu viens, moi, c'est vrai que ce ratio, notamment entre le temps passé dessus et la production, c'est quand même assez incroyable, hein, le temps
ouais.
passé. Je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Bon, bah, on a compris, hein, là, c'est le moment, on est fin octobre. C'est le moment de faire la cure. Hein,
Ouais,
faisons
on
dire.
demande là, ouais.
Voilà, on est en plein dedans. Donc, écoute, pour ceux qui sont intéressés, maintenant, ils savent où en trouver, ils savent à quoi ça correspond. Je te remercie beaucoup. Et puis, écoutez, ben, nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous dis pas le nom de l'invité, ce sera ma petite surprise. C'est moi qui manage un petit peu l'ordre des épisodes. Mais on continuera à parler de tous ces sujets, notamment de l'alimentation, du sport, des produits naturels, etc. et de comment on les consomme. Merci beaucoup. Merci, Ludovic.
Merci, au revoir.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.